José Moselli, le club du feu d'enfer. La part que John Strabins prit à la dramatique aventure qu'on va lire est peu connue en Amérique. Le détective cambrioleur, d'ailleurs, n'y joua qu'un rôle incident et seulement dû au hasard. Là encore, il trouva devant lui des germano-américains, autrement dit des boches d'Amérique. À cela, rien d'étonnant. Ainsi que chacun le sait, l'activité des Boches aux États-Unis pendant toute la Grande Guerre a été extraordinaire, tumultueuse, désordonnée, colossale, pour ainsi dire. Pour leur besoin de leur propagande, les Teutons se sont fait banquiers, négociants, prédicateurs, télégraphistes, journalistes, espions, surtout espions. Certains ont été jusqu'à l'assassinat, comme celui qui tenta de tuer le banquier Pierrebon Morgan. Poignard, revolver, corruption, mensonge, espionnage, faux, les Boches ont tout utilisé, de Schlan über alles. Voilà, n'est-ce pas, un beau piédestal pour l'Allemagne, et digne de sa culture. Tout ceci pour expliquer les nombreuses affaires en lesquelles John Strabins s'est trouvé, si on peut dire, en concurrence avec les Boches, rencontre toute naturelle. Les Teutons étant partout, le détective cambrioleur devait souvent les rencontrer devant lui. Déjà dans l'affaire Mülheim, dans ses relations avec le baron von Schweinburg, et plus encore lors du cambriolage de la maison Rossigl, John Strabins avait pu apprécier la bassesse, la duplicité et la fourberie Boche. Eh bien, il devait s'apercevoir, lorsqu'il a été appelé à le mystère du club du feu d'Elfrère, qu'il n'avait encore rien vu. L'affaire du club du feu d'enfer débute parce qu'un journaliste appellerait à un simple fait divers. Très simple. Un de ces petits drames quotidiens et douloureux qui ont pour théâtre les grandes villes. C'était quelques jours avant les fêtes de Noël 1914. Il pouvait être 11 heures du soir. Une brume légère épaississait l'air froid, mouillait les pavés du Lincoln Quay et rougissait les lumières produites par les hautes lampadaires électriques éclairant le rivage. Les rares navires accostés semblaient morts. Ils étaient noirs et silencieux. Personne à bord que l'homme de faction qui se tenait à l'abri dans quelques coursives, le reste de l'équipage étant ou endormi ou à terre à godailler dans les tavernes. De loin en loin, un douanier, engoncé dans sa capote et plus occupé à se garer du froid que de guetter d'improbables contrebandiers, et partout, dans les hangars et sur l'eau calme du port, le silence. Brusquement, d'une des rues donnant sur le quai, un homme déboucha. Pas un marin, bien sûr, ni un contrebandier. Une large pelisse de drap noir doublée de zibeline l'enveloppait. Ce vêtement, resté ouvert malgré le froid et l'humidité, laissait voir un habit de soirée largement échancré sur une chemise dont le plastron glacé réverbérait la lumière des candélabres du quai. L'inconnu, qui était coiffé d'un somptueux 8 reflets et chaussé d'escarpins vernis, marchait lentement, la tête basse, les épaules arrondies, les bras ballants, les mains enfouies machinalement dans les poches de sa pelisse. C'était un jeune homme, son visage pâle, contracté, accusait à peine 25 ans, plutôt moins. Entre ses lèvres, il tenait un gros cigare à demi fumé et qu'il avait laissé éteindre. Tout en lui, enfin, indiquait l'abattement et la préoccupation. Il faillit se heurter à un amas cubique de sacs de blé recouverts de bâches, releva la tête, frissonna, cracha son cigare, et s'étant pour ainsi dire orienté, reprit sa marche vers l'eau. Il arriva bientôt sur l'extrême rebord du quai, s'arrêta et jeta un regard autour de lui. Le douanier était loin, appuyé à sa guérite, il ne voyait rien. « Allons, finissons-en !» murmura l'inconnu, qui rapidement retira sa pelisse, qu'il jeta à quelques pas de lui, prit dans sa poche une mince cordelette dont il attacha l'ensemble ses chevilles, et cette précaution prise, évidemment pour s'empêcher de nager, ploya les jarrets pour sauter dans la mer. À cet instant précis, une main nerveuse le saisit au collet et le fit se relever brusquement. Elle appartenait à un homme qui venait de descendre d'un navire voisin et, sans bruit, s'était approché. Le désespéré, tout à ses lugubres préparatifs, ne l'avait ni vu ni entendu venir. « Gentleman, dit-il d'une voix âpre, je vous prie de me laisser. » L'inconnu eut un rire ironique et léger. « Par la saison des bains froids, ni l'heure ni l'endroit, répondit-il, sans desserrer son étreinte. » Et de sa main libre, il tira un petit canif de sa poche et coupa la cordelette en serrant les chevilles du candidat à la noyade. Ce fut si vite fait, avec tant de dextérité, que le désespéré n'eut pas le temps de s'y opposer. « Ah, sale gentleman » gronda-t-il en essayant, mais en vain, de se dégager. « Du calme, mon ami, et venez avec moi. Nous nous ferions remarquer à rester ici. Allez, prenez votre pelisse et en route. Oh, je vais vous lâcher, j'espère que ne vous jetterez pas à l'eau. Cela m'obligerait à vous repêcher, je n'aime pas les bains froids. » Se disant, l'inconnu ouvrit la main. Le désespéré, libre, resta immobile, dominé par le sang-froid de son interlocuteur. Après une brève hésitation, il ramassa sa pelisse et murmura amèrement. « Oh, vous croyez bien faire, gentleman, et vous faites mal. Je dois mourir, je le dois. Et j'y étais décidé. Sans vous, tout serait déjà fini. Tandis que je vais être obligé de me décider une seconde fois. C'est dur, si vous saviez. » « Oui, c'est dur, » fut brièvement l'inconnu. « Surtout à votre âge, allez, venez. S'il y a moyen de vous faire changer d'idée, je m'en charge. »« Impossible, » répondit le désespéré sombre, en emboîtant machinalement le pas à son interlocuteur. Celui-ci haussa les épaules. « Des mots, » dit-il, « mais vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas en deuil, vous n'êtes pas vieux. Il ne reste donc que deux motifs pour en vous avoir déterminé à la mort. Un chagrin intime ou... » Le désespéré haussa violemment les épaules. « Ah, c'est donc une perte d'argent, » conclut l'inconnu en prenant le bras de son compagnon, qu'il sentit tressaillir. Il eut un rire silencieux. « De l'argent ! Peu de choses, mon cher. Il y en a tellement qu'il n'y a que le vouloir pour en posséder. Que vous manque-t-il ? » Le désespéré lui lança un regard sinistre et s'arrêta brusquement. « Cessez ce jeu, gentleman, » siffla-t-il d'une voix sourde. « Après tout, peu importe que vous le sachiez, tout le monde le saura demain. Eh bien, j'ai mangé ma fortune. J'ai volé 80 000 $ à mon patron et j'en dois 30 000. Voilà pourquoi je n'ai plus qu'à mourir. » Voilà satisfait, n'est-ce pas? Alors laissez-moi en paix. Sans vous, je serais déjà délivré de tout. » L'inconnu, sans s'émouvoir, fit entendre un petit sifflement ironique. Fum, 80 000 plus 30 000, cela fait 110 000. Et je suppose que vous aviez quelque fortune, que vous avez également dilapidée. Oui, 700 000 $. Et après, bien, total 810 000 $, conclut froidement l'inconnu. Or, à votre âge, on n'a pas encore eu le temps de manger, comme vous le dites, 800 000 $. On se les a fait gruger ou voler. Non, je les ai perdus. Au jeu? Oui. Et où cela? Bon club du feu d'enfer. Vous êtes content? Oh, je vous dirais même qu'on a dû me voler. Enfin, une guigne sinistre et persistante. Alors j'ai perdu la tête et j'ai puisé dans la caisse de mon patron. J'ai tout pris, et demain à l'échéance, C'est simple. Ni vous ni moi, nous pouvons rien. Allez, j'espère maintenant que vous allez me laisser à mon sort. Mais oui, je vous poserai encore une question. Contre qui avez-vous joué? Oh, c'est pas un secret. Contre le colonel Gregorio Berlunesi Campos, le diplomate chilien. Il m'avait secoué il y a 15 jours. Ce soir, il est revenu de voyage, alors j'ai voulu ma revanche. Je l'attendais tous les jours. Il m'avait promis de me télégraphier son retour. Alors, pour essayer de me refaire, j'ai emprunté $80 000 à mon patron. Je suis allé au club et j'ai tout perdu, rincé, vidé. Je dois $30 000 sur parole. Parfait, parfait. Je vais vous donner un chèque de $80 000. Vous irez le toucher demain matin à la Californian Bank dès l'ouverture des bureaux. Ainsi, tout se réduira pour vous à un petit retard de quelques minutes. Et votre patron ne saura rien. Puisque la chance vous a mis sur mon chemin, je ne veux pas vous sauver à moitié. Mais vous ne savez pas même mon nom, balbutia le joueur ruiné, ne sachant s'il devait prendre son interlocuteur au sérieux, mais s'efforçant de le croire. Dans les grandes crises de la vie, l'âme se raccroche aux espoirs les plus fous. Votre nom, fit l'inconnu. Oh, je n'ai pas besoin de le savoir. Je vous signe un chèque au porteur. Et n'ayez crainte, il sera payé. Ayant tiré de sa poche un stylographe en or et un mince carnet de chèques, il y mêla un des précieux papiers et le remit au joueur béant. Et jouez plus, conclut-il. Le jeu est une duperie, puisque même honnête, il échappe à nos calculs. Bonsoir. Et le mystérieux bienfaiteur s'éloigna, laissant son interlocuteur stupide de surprise et de joie, et tenant entre ses mains le chèque, sans pouvoir croire à sa réalité. Le club dit feu d'enfer, mais tout San Francisco le connaît. C'est là où les grands éleveurs de l'Ouest, les riches armateurs de l'Oregon, les mineurs autour du Klondike après fortune faite, se réunissent. Les San-Franciscains affirment que c'est au club du feu d'enfer où l'on joue le plus gros jeu d'Amérique et même du monde. On cite des gains, $10 millions dans la même nuit. On y joue enfin un jeu d'enfer, de là le sobriquet du club, dont le vrai nom, que tout le monde a oublié, était plus simplement le Pacific Union Club. Fondé il y a 20 ans environ, au moment où la découverte de l'or au Klondike passionnait les aventuriers du monde entier, le Pacific Union Club ne tarda pas à devenir célèbre par l'importance des parties qui s'y disputaient. Plusieurs mineurs y laissèrent en une soirée le résultat d'une saison de misère et de souffrance, des fortunes. D'autres joueurs s'y enrichirent sans avoir besoin d'aller au Klondike. L'argent y fond comme au feu de l'enfer, déclara un journaliste qui l'interviewait, le mineur Johnson, lequel y avait perdu la veille $1,500,000. Le mot fit fortune. Le Pacific Union Club devint le club du feu d'enfer, et avec cela, confortable, élégant, vaste, agréable. Le club du feu d'enfer, enrichi grâce à sa cagnotte, occupait un somptueux building sur l'Armoniana Avenue. Le rez-de-chaussée était occupé par un restaurant réservé aux seuls membres du club et dont le chef, un Français, percevait des appointements royaux et une bibliothèque citée parmi les plus complètes et les mieux fournies d'Amérique. On en aura une idée en sachant qu'elle se composait de près de 300 000 volumes et qu'elle était abonnée à un jour 1300 publications ou journaux différents. Au premier étage, la salle de jeu, longue de 32 mètres, large de 12, haute de 9, une salle princière aux murailles de marbre et de jade ornées de tableaux, dont le moindre valait $100 000. Les autres étages étaient occupés par les archives, les appartements du comité de direction et les différents services du club. Cette nomenclature ne serait pas complète si l'on oubliait les caves blindées, meublées de coffres-forts cuirassés, où le club entassait ses richesses. Car le club du jeu d'enfer était riche. Pour tourner la loi qui, en Amérique comme en France, défend de tenir des maisons de jeu publiques, le club était, soi-disant, une association privée où les sociétaires jouaient entre eux. Pour y entrer, il fallait se pourvoir de deux parrains, poser sa candidature et être élu par la majorité des membres du club. En réalité, c'était plus simple. Les deux parrains, le candidat les trouvait facilement parmi le comité. Quant au scrutin, il était toujours favorable. Les membres du club venant pour jouer et pour rien d'autre ne demandaient pas mieux que d'avoir des partenaires. Et ils savaient bien que le comité leur présentait que des candidats solidement conçus. En résumé, un habit élégant et un portefeuille bien garni, et le club du feu d'enfer vous admettait. Comme cotisation à payer, ou rien ou presque, 1 dollar par mois, 100 sous. Voyant en quoi on avait droit à la bibliothèque, à la salle d'escrime, à de merveilleux repas et à 1000 autres avantages. Mais il y avait la cagnotte, c'est-à-dire le 5%, une misère que le club prélevait sur les mises. Et cette misère, le comité du club seul en savait la valeur. Elle se chiffrait par plusieurs millions annuels de bénéfices nets. Le comité, bof, nul ne le connaissait exactement. Au reste, qui s'en souciait? Les joueurs venaient pour jouer. Le jeu était honnête, la maison confortable. Peu importe le reste. Le contre-Adolphe Battoni d'Elleksen, un noble Hongrois venu à Frisco à la suite de nul ne savait quelles aventures, présidait le club. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, grand, mince, élégant, le visage blême, orné de deux petits favoris et d'une moustache grisonnant, l'œil bleu, la physionomie exprimant une sorte de bienveillance lointaine et fatiguée. Au demeurant, très affable et ayant le prêt facile. La grande salle du club étincelait de lumière lorsque, un peu après minuit, l'inconnu qui avait si royalement secouru le désespéré du Lincoln Quay y pénétra. Il était en habit. Deux perles d'une rondeur d'un orient sans égal ornait sa chemise. Un mince sourire flottait sur ses lèvres. Une taille un peu au-dessus de la moyenne, élégamment cambrée et le visage singulièrement énergique, bien que fermé, pour ainsi dire, par une impassibilité qui devait être voulue, l'inconnu, très à l'aise, tel un vieillard habitué de la maison, se dirigea vers une des tables de jeu et, pendant quelques instants, resta debout entre deux chaises à regarder les péripéties de la partie de baccarat qui se déroulait. « Tiens !» fit une grosse voix derrière lui. « Vous voilà, Streatfeild. Du diable, si je m'attendais à vous revoir ici. Il y a un siècle qu'on ne vous a pas vu. » L'inconnu se retourna et se trouva face à face avec celui qui venait de l'interpeller, un petit homme bedonnant, à face rubiconde et glabre, le type enfin du bon vivant. « Ah, Malcolm, dit-il, heureux de vous revoir, cher ami. Je dois en effet en Europe. C'est vraiment pas le moment. Oh, c'était pour une affaire de munitions que je voulais traiter moi-même à Londres. Enfin, c'est fait. Toujours gros jeu ici ?» Sacré Streatfeild. Vous voulez risquer l'argent que vous avez gagné aux Anglais, hein? Oui, le jeu est assez animé. Des clans qui a? Bon, très peu, mais de nombreux fabricants de fusils et de canons. font des bénéfices fabuleux. Oh, vous trouverez à qui parler, Strayfield. Tant mieux. N'y a-t-il pas aussi un Mexicain, enfin Colombien, enfin un du Sud? On m'a parlé de sa veine. Fit Strayfield de l'air le plus naïf du monde. Oh, le Chilien. Chilien, mon cher. Oh, le colonel Berlunez y Campos, le chef de la mission diplomatique chilienne. Oui, il a une veine effrayante, phénoménale. Des séries comme j'en ai jamais vues, et un flegme, un sang-froid. Quel gaillard! Il est arrivé il y a 6 semaines, et après avoir plus ou moins perdu les 8 premiers jours, il nous a tous étriés. Il était reparti pour Washington il y a quelques jours, il est revenu ce soir. Aussitôt, il a eu contre lui les plus forts joueurs, qui croyaient sa série terminée. Ah oui! Il en a rincé une demi-douzaine. Il doit gagner $1 million ce soir. Ben, si vous voulez vous y essayer, votre voyage à Londres y passera. Tenez, il est là-bas, à la 7e table. Il tient la banque. Entre nous, je ne vous conseille pas de vous y frotter. Il triche? Oh non, impossible, on le guette trop pour cela. Mais il a la veine, et quand on a la veine... Le gros Malcolm s'arrêta. En vrai joueur, le mot « veine » était pour lui la fin du fin. On avait la veine ou on ne l'avait pas. Cela expliquait tout, et quand on l'avait... Strayfield sourit. « Eh bien, dit-il, je vais voir. » Et tranquillement, il se dirigea vers la table où pontait le veinard. Plus de 100 personnes l'entouraient, le visage tendu et immobile, les traits tirés, les yeux brillants. Assis sur le fauteuil bancaire, le colonel Berlunez y Campos, seul, semblait jouir de son plein sang-froid. Son visage, semblable à un énorme citron, barré d'une longue moustache noire-bleue, était souriant. Ses yeux, couleur de café, se posait distraitement sur les joueurs, cependant que ses mains maigres et noueuses, ornées d'énormes bagues d'or, distribuaient lentement les cartes. Sur les 2 tables, billets de banque et aigle s'amoncelaient. Berlunez retourna. Il gagnait partout. Un sourd murmure fait d'envie et d'admiration se fit entendre. Le colonel chilien resta impassible, cependant que le croupier, de sa longue palette d'acajou, repoussait vers lui or et billets de banque. Le coup suivant, il gagna encore, gagna et regagna. Strayfield, indifférent, avait allumé un cigare et observait Berlunez. Un des joueurs, décavé sans doute, se leva enfin. Strayfield put prendre sa place et, modestement, mit sur le tableau placé devant lui un billet de $20 qu'il perdit aussitôt. Pendant quelques minutes encore, la chance du colonel Berlunez y Campos ce matin toujours aussi insolente. Si les joueurs amenaient 8 points, il en montrait 9. S'il n'avait que 6, ses adversaires n'arrivaient qu'à 5. Malgré cela, son gain se restreignait progressivement, car les joueurs, désespérant de gagner, diminuaient peu à peu leur mise. Un seul semblait vouloir défier la veine du Chilien. C'était Strayfield. Le mystérieux personnage, ayant commencé par miser $20, s'était acharné et avait doublé à chaque coup son enjeu, ce qui mathématiquement l'amena au 12e coup à pousser devant lui une masse de $40,960 exactement. À ce moment, il avait déjà perdu $91,900, et cela en moins de 10 minutes. Toute l'attention, maintenant, se portait vers Strayfield. Les 2 tableaux destinés à recevoir les mises restèrent vides, ou à peu près. La partie allait se réduire à une sorte de duel entre Strayfield et Berlunez y Campos. Ce dernier restait impassible. « Et personne ne mise plus ?» demanda-t-il d'une voix calme. Oh, je crois que non, répondit Striphil d'un mi-voix. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il était aussi calme que son partenaire. Mais vous allez vous faire ratisser, Striphil, murmura derrière lui Malcolm qui l'avait rejoint. Je vous l'avais bien dit. Oh, il faut bien passer le temps, mon cher, fit l'énigmatique personnage. Cependant, Berloudès distribuait les cartes. Striphil regarda les siennes. Ça va, dit-il. Bien que l'on fût au club de feu d'enfer, le coup était gros, plus de 40 000 $. Sous les regards enfiévrés des joueurs, Striphil retourna ses cartes. J'ai 8, déclara-t-il. Moi 9, dit Berloudès en montant les siennes. Encore un coup, il gagnait. Un léger brouhaha s'entendit. Mais quelle veine, mais c'est incroyable! Fabuleux! Rien à faire! La voix calme et froide de Striphil domina les murmures. Je double, dit-il. Il tira de sa poche un portefeuille de cuir vert. Il en sortit un matelas de billets de banque et méthodiquement les compta. Il y avait 100 billets de 1 000 $. 100 000 $, dit-il à haute voix. Veuillez vérifier, Seigneur Berloudès. Il poussa les billets de banque devant le colonel chilien. Oh, gentleman, c'est inutile, je me fie à vous, fit ce dernier noblement. Flatté, Seigneur. Veuillez donc donner les cartes, déclara Striphil. Il remit en poche son portefeuille vide. La curiosité devenait de plus en plus grande, une curiosité cruelle et malsaine. Les joueurs comprenaient que Striphil brûlait ses dernières cartouches. Ils l'observaient pour voir le visage avec lequel il allait accueillir sa ruine, car aucun ne doutait du triomphe de Berloudès. Celui-ci, toujours impassible, donna les cartes. Une carte, demanda Striphil après avoir examiné les siennes. Berloudès la lui lança. Il abattit. L'anxiété était à son comble. Neuf, dit-il. La voix du colonel chilien trembla légèrement. Oh, tout le monde put le constater en répondant. Moi, 8. Vous avez gagné, gentleman. Tous les regards se tournèrent vers Berloudès. Sa veine était donc finie. Je laisserai le tout, si vous le voulez bien, gentleman, continua Striphil posément, cependant que le croupier poussait vers lui les 100 000 $ qu'il venait de gagner. La partie, décidément, devenait digne du club du feu d'enfer. Des tables voisines, les joueurs arrivaient. 200 000 $ sur un coup de carte. Plus d'1 million de francs, c'était à voir. J'accepte, répondait le colonel chilien. Et pour la première fois, les assistants, oh, ils étaient tout oreilles, purent constater, en l'entendant, que le persistant Vénard n'avait plus tout son calme. La déception, la surprise, sans doute. Tandis que le Chilien donnait les cartes, Striphil, tranquillement, alluma un cigare. J'ai 9, dit-il avec simplicité après avoir regardé son jeu. Berloudès n'avait que 7, sa voix tremblant l'annonçant. Ouf, il fait chaud. Veuillez un peu vous reculer, gentleman, fit Striphil, souriant. On étouffe ici. Les curieux obéirent. Si vous en consentez, reprit Striville à son adversaire, nous jouerons un dernier coup. Il y a, je crois, 7 cartes au talon. Je me sens fatigué. Il y a là 400 000 $. Nous en ferons un banco. Berloudès était devenu très pâle. Il lança à Strickfield un regard d'assassin. Un banco, c'est que, oui, oh, je ne sais pas si j'ai 400 000 $ en banque, balbutia-t-il en se sentant le centre des regards. Strickfield sourit. Oh, il importe peu, dit-il en désignant le monceau d'or et de banknotes étalé devant le banquier. Vous devez avoir là, pas loin de cette somme. Nous n'en sommes pas à quelques milliers de dollars près. Si vous y perdez, nous compterons. Et s'il manque quelque chose, ben vous me le devrez. Berlunel eut une brève hésitation. Il regarda autour de lui comme pour chercher un secours ou mendier un conseil. Strayfield, cependant, tout en jouant avec son cigare, ne le quittait pas des yeux. Leurs regards se croisèrent comme deux lames d'épée. Faisons, dit enfin le Chilien. C'était le silence. Dans l'immense salle, on eût entendu voler une mouche. Le colonel Berlunez y Campos ne bougeait pas. Alors, seigneur, finissons-en, observa Strayfield. J'ai sommeil. Berlunez le fusilla du regard et donna. Les deux hommes abattirent leur jeu. Ma foi, j'ai gagné, murmura Strayfield en bâillant légèrement. Et il fit un mouvement pour se lever. Mais vous, Winston, un ladron et un voleur, clama soudain Berlunez en se précipitant sur lui, ce n'est pas. Un féroce coup de poing de Strayfield qui lui cassa trois dents lui renfonça dans la bouche le restant de la phrase. Il le fit reculer, chancelant, à trois pas de là. Mais nous ne sommes pas ici dans la Pampa, gentleman, dit en même temps l'heureux joueur, droit, souriant, les bras croisés. Berlunez eut un rugissement de fauve. Il resta une seconde immobile, et soudain, tirant un poignard de sa ceinture, il se rua sur Strayfield. Une détonation retentit. Strayfield avait fait feu d'un mignon revolver. Berlunez resta béant, tenant dans sa main crispée le tronçon de son poignard, dont la balle de son adversaire venait de briser la lame au ras du manche. Les joueurs, revenus de la stupeur que leur avait causé ce drame inattendu, se précipitèrent sur les deux ennemis. Berlunez écumait littéralement. Une traînée de bave filtrait aux commissures de ses lèvres, ses yeux injectés de sang lançaient des éclairs, et ses larges mâchoires s'entrechoquaient. C'est tous les voleurs, ou les voleurs! Je veux le tuer! Glapissait-il en essayant de se dégager de ceux qui le retenaient. Strayfield était resté calme. Il avait remis son revolver en poche et, très tranquillement, surveillait un des garçons du club qu'il avait prié de faire un paquet des banquenotes éparses sur la table. Autour de lui, les membres du club, dont plusieurs le connaissaient, l'assuraient de leur estime, affirmant avoir été témoin de sa parfaite correction. Et lui, souriant, ne répondait pas, se contentait de regarder autour de lui. Hors d'un suprême effort, le colonel Berlunez réussit soudain à se dégager, ayant au poing le tronçon de son poignard, fonça sur Strayfield. Celui-ci, loin de reculer, repoussa ses amis et en un instant fut sur le Chilien. Une lutte courte, un rapide corps à corps, et Berlunez, les os broyés par une prise de jiu-jitsu, s'affaissa en hurlant de rage, de douleur et d'impuissance, cependant que Strayfield, très tranquille, allumait un nouveau cigare qu'il prit dans sa poche. Gentlemen, gentlemen, fit une voix autoritaire. C'était le comte Rodolphe Batoni, le président du club, qui, prévenu, accourait. Berlunez, qui se relevait, le vit et courut à lui. Mais cet homme, c'est un voleur! Cria-t-il en désignant Strayfield. Il m'a gagné près de 500 000 dollars. Oh, je suis sûr que. Alors, on est un voleur parce qu'on vous gagne ou bien c'est vous qui êtes un voleur dépité de ne pas gagner? Demanda Strayfield, ironique. Berlunez grinça des dents. Le comte Batoni lança à Strayfield un regard indéfinissable, fit un mouvement comme pour marcher vers lui, et, se ravisant sans doute, dit à Berlounez, « Allons, mon cher colonel, du calme, voyons. La chance va et vient. Un autre jour, vous gagnerez. Ce gentleman vous donnera une revanche. » Et à mi-voix, il souffla, « De la prudence, vous êtes perdu. Laissez cela. » Berlinès tressaillit et resta béant, hagard, sa colère tombée, ne sachant plus que faire, que dire. Stryphil, cependant, prenait des mains du garçon l'énorme paquet d'or et de billets de banque que celui-ci venait de lui confectionner, et l'ayant placé sous son bras, concluait « Gentlemen, je vous salue. Seigneur le colonel Berlounez, vous êtes un bien pauvre joueur. » Le Chilien se mordit les lèvres, mais ne bougea pas. Lentement, sans hâte, Stryphil gagna le vestiaire. Il disparut. Dans la salle, tout le monde regardait Berlounez, toujours immobile. Le colonel Batoni, bienveillant, fit signe au colonel chilien de le suivre, pour se remettre de ses émotions, sans doute. Les deux hommes, en parlant, marchèrent vers la porte de la salle donnant sur l'escalier desservant les appartements de Batoni. Ils allaient l'atteindre lorsque les joueurs virent soudain Berlounez, qui venait de porter la main à sa poche, pousser un hurlement rauque et quittant Batoni, effaré, se ruer vers le vestiaire. Des journalistes, très certainement, se trouvaient parmi la foule des joueurs qui avaient assisté au duel Stryphil-Berlounez au club du Feu d'Enfer et au scandale qui avait suivi, car le lendemain matin, tous les journaux de San Francisco donnèrent un récit circonstancié de la séance. Après s'être précipité comme un fou vers le vestibule, le colonel Berlounez n'avait plus reparu au club. Il n'était pas non plus revenu au Columbian Hotel où il habitait, et des reporters venus pour lui demander des détails avaient trouvé porte close. Et le manager du Colombian leur avait affirmé qu'il ignorait où était l'officier chilien. Quant à M. Stryphil, c'était un ingénieur canadien sur lequel il n'y avait rien à dire. Tous les membres du club le connaissant affirmaient que ce gentleman était d'une correction parfaite et incapable de tricher. Au surplus, l'eût-il voulu, que c'eût été impossible, tous les regards étant fixés sur lui lors de sa lutte avec Berlounez. Le comte Batoni, interrogé, avait répondu qu'il connaissait M. Stryphil pour l'avoir vu au club, et qu'en tout cas il se portait garant de l'honorabilité du colonel Berlounez, lequel, un véritable gentilhomme, était au-dessus de tout soupçon. Quoi qu'il en soit, une certaine gêne pesa sur les sociétaires du club le soir suivant. Le jour languit. Le colonel Berlounez di Campos ne parut pas pour l'animer, pas plus que M. Stryphil du reste. Les joueurs, qui ne montraient que peu d'entrain, remarquèrent que le comte Batoni semblait préoccupé. Il se retira vers minuit et revint dans la salle une heure plus tard. Tout le monde put remarquer qu'il était très pâle. Détail qui paraît à première vue sans importance, mais qui en acquiert une grande lorsque, le lendemain, les journaux de Frisco annoncèrent en grosses lettres que le comte Rodolphe Batoni d'Elxen, président du club de Feu d'Enfer, avait été trouvé assassiné dans la chambre forte du cercle. Les détails suivaient. Le crime avait été découvert fortuitement. À 3h30 du matin, le caissier du club, un certain Matthias Brauer, ayant eu besoin de petites coupures pour faire le change à des joueurs, était descendu dans la chambre blindée où se trouvaient les coffres et dont il possédait seul la clé avec le comte Batoni. Cette chambre forte, située au sous-sol du club, se composait d'une cave aux murailles de béton armées de 2 mètres d'épaisseur et fermé par une porte d'acier à quadruple serrure. Elle contenait 4 coffres, dont 3 refermaient les richesses et la comptabilité, une comptabilité assurément bien curieuse, du club. Leur clé était en la possession de Batoni, Bauer n'ayant que celle du quatrième coffre, lequel contenait l'argent nécessaire aux dépenses courantes, soit quelques centaines de mille dollars. Lorsque Brouwer était arrivé devant la porte de la chambre forte, celle-ci était fermée. Le caissier du club l'ouvrit et remarqua avec surprise qu'elle n'était pas fermée à double tour. Il attribua cette négligence aux préoccupations de Batoni. Étant entré, il tourna le commutateur fixé au mur le long du cramble. Au plafond, des ampoules électriques s'irradièrent et Brouwer poussa une exclamation d'horreur. À quelques pas de lui, devant les quatre coffres ouverts et vidés de toutes les valeurs qu'ils contenaient, le comte Batoni gisait sur le sol cimenté, à plat ventre, les bras en croix, le crâne éclaté, d'où la cervelle avait jailli. Affolé, le caissier, oubliant même de refermer la porte de la chambre forte, était remonté, avait averti les employés de sa terrible découverte et avait téléphoné à la police. En quelques instants, le drame avait été connu des joueurs. Ceux-ci, après de brefs commentaires, s'étaient éclipsés, ne se souciant pas d'être interrogés par la police ou mêlés au drame. Quel coup pour le club du feu d'enfer! Ce qui avait suivi, les journaux n'en parlaient que très peu, n'ayant pas eu le temps, par suite des nécessités du tirage, d'élaborer une enquête. On savait seulement que M. James Molest Scott, le chef de la sûreté, averti, s'était rendu en personne au club du feu d'enfer et qu'il résultait de ses premières investigations que vers 3 heures du matin, le comte Batoni, après avoir souhaité bonne nuit à quelques membres du cercle, s'était retiré chez lui. Depuis, nul ne l'avait plus revu. Si mince, si insuffisant que fussent ses renseignements, il n'en considérait pas moins, avec l'empreinte d'un doigt saignant laissé par l'assassin sur la porte laquée du coffre-fort, le seul butin recueilli par M. James Molest Scott. À 3 heures de l'après-midi, un planton vint avertir Molest Scott que le colonel Berloudès venait d'arriver à l'hôtel de la Sûreté et désirait avoir un entretien avec lui. « Faites entrer de suite !» ordonna le magistrat. Le colonel chilien pénétra peu après dans le cabinet du chef de la sûreté, et Molest Scott remarqua qu'il était un peu pâle. « Vous m'avez fait rechercher par vos agents, monsieur, » commença Berloudès après s'être assis. « Il n'en était pas besoin. Vous n'aviez qu'à me faire savoir qu'il vous était agréable de me parler pour que je vienne. Je n'ai rien à me reprocher. » Et telle est bien ma conviction, mon colonel. Aussi est-ce simplement à titre de renseignement que j'ai désiré vous entendre avant de transmettre le résultat de mon enquête à la justice. Où avez-vous passé la nuit? Et en prononçant cette dernière phrase, Molest Scott regarda fixement son interlocuteur. Berloudès haussa les épaules. « Mais suis-je accusé ? » demanda-t-il. « Non, non, colonel, mais... « Alors, je n'ai pas de vous répondre. Ou plutôt si, je vais vous dire la vérité. Je me suis promené. Et où ? Dans les rues de San Francisco. Le temps était froid et sec. J'aime cela. Vous étiez seul ?
Seul ? »
Le colonel se leva. « En voilà assez, je suppose, » conclut-il. « S'il faut d'autres explications, je les donnerai à qui de droit. Je vous salue, monsieur. » Et droit, raide, insolent, le colonel chilien sortit. Toi, mon bonhomme, tu crains trop, murmura Molest Scott, rageur. Eût été le caractère diplomatique de Berloudès, qui le fait aussitôt appréhender, quitte à demander ensuite un mandat d'arrêt à la Tornay. Il dut se borner à transmettre les paroles du chilien au juge chargé de poursuivre l'affaire, ce qu'il fit aussitôt. Pendant toute la journée à San Francisco, les commentaires allèrent leur train. Le comte Batonilly de Lexen était très répandu dans la société. On le savait, sinon riche, du moins disposant d'énormes sommes, et n'hésitant jamais à mettre la main à la poche. Aussi était-il assez regretté. Les journaux du soir donnèrent de nouveaux détails. Le montant de l'argent volé dans les coffres du club du feu d'enfer était exactement, d'après la comptabilité du cercle, laquelle n'avait pas été touchée, de 1 653 000 $, soit environ 8 300 000 francs. Une belle somme, même en Amérique. Pour que le ou les voleurs eussent pu emporter une pareille liasse de billets de banque, et surtout pénétrer dans la chambre forte sans avoir été vus ni remarqués, il fallait qu'ils eussent des intelligences dans la place et qu'ils connussent admirablement les lieux. Les membres du conseil d'administration du cercle, interrogés par le magistrat chargé de l'instruction du crime, n'avaient pu fournir la moindre indication. Ils n'y comprenaient rien. Le caissier Brouwer et le comte Batoni, les deux seuls qui eussent les clés de la chambre forte et connussent la combinaison permettant de faire jouer les serrures, ne pouvaient être suspectés. Brouwer ne s'était du reste absenté de la salle de jeu la nuit du crime qu'une seule fois, lorsqu'il avait découvert l'assassinat. D'autre part, les quatre coffres-forts avaient été ouverts et non fracturés. Or, ces coffres, seul le baron Batonilly pouvait les ouvrir. Et pourquoi les aurait-il ouverts tous les quatre à la fois? Évidemment, l'assassin l'y avait obligé. Conclusion, l'assassin devait donc être un familier de Batonilly pour avoir pu pénétrer avec lui dans la chambre forte sans que le comte en empêchât. Cela lui était facile. Il n'aurait eu qu'à presser un des nombreux boutons faisant vibrer la sonnette d'alarme appliquée aux murailles. Un familier du comte, ils étaient nombreux, Batonilly passant pour avoir la main large. Mais qui? Les membres du conseil d'administration du club. Trois fournirent des alibis concluants, prouvant que cette nuit-là, aucun d'eux ne s'était trouvé au club, où d'ailleurs ils ne mettaient que rarement les pieds, se contentant d'empocher les bénéfices. M. Max Mülheim, le vice-président, n'avait pas bougé de chez lui. M. Katzenbaum était rentré du théâtre à minuit et n'était plus ressorti. M. Immergott était au lit depuis plusieurs jours. M. Eiseldruck se trouvait à Chicago et M. Wilbrust à New York. Aucun d'eux ne pouvait donc être soupçonné. Le seul résultat de leur interrogatoire fut d'apprendre au public que le club du feu d'enfer appartenait à des germano-américains ou à des germains tout court, ce dont beaucoup se doutaient. Ce qui ne donnait pas la solution de l'énigme. Un seul journal, cependant, le Wonderful Journal, apportait quelques lumières. Son rédacteur en chef, M. William Elbridge, après avoir eu un long et documenté article, fait le récit du crime et du club du feu d'enfer, concluait en ces termes. Le mystère du club du feu d'enfer n'est peut-être pas aussi mystérieux qu'il le paraît. Une personne que, pour des motifs que tout le monde comprendra, nous ne pouvons nommer, nous a déclaré ce matin, à tenir de sources certaines, que la justice sait déjà à quoi s'en tenir sur l'identité du criminel, lequel, si notre informateur ne nous a pas trompés, aurait été convoqué ce matin à l'hôtel de la Sûreté. Il ne nous est pas possible d'en dire plus pour l'instant. Cependant, nous pouvons ajouter que le personnage soupçonné appartient à la colonie étrange de notre ville et qu'il a défrayé la chronique et qu'à curiosité publique ces jours-ci. Les événements, donc, diront si notre information est exacte, pour le moment, nous semblent justifiés. Bien que rien dans ces lignes ne fût affirmatif, Bien que les scies y abondassent, il était évident que M. Elbridge savait quelque chose. Dès l'apparition du Wonderful Journal, ce fut une affluence dans l'antichambre d'Elbridge. Tout le monde voulait se renseigner. De nombreux habitués du cercle du feu d'enfer se voyaient parmi l'assistance. Tous furent déçus. Monsieur Elbridge n'est pas là. Il est parti en voyage, déclara le garçon de bureau du Wonderful au curieux. Oh, il ne reviendra pas avant plusieurs jours. Parmi ces curieux se trouvait le colonel Bernudez y Campos. Il s'était parfaitement reconnu dans le personnage auquel faisait allusion Elbridge. À n'en pas douter, c'était lui le personnage de la colonie étrangère qui avait défrayé la curiosité publique et avait été convoqué le matin même à l'hôtel de la Sûreté. Elbridge, du reste, ne savait rien de tout ça. Bernudez sortait à l'instant même du cabinet du magistrat, chargé d'instruire l'affaire. Il était hors de lui. Et vous ne savez pas le nom du pays où votre misérable patron est parti ? Insista-t-il auprès du garçon du Wonderful Journal. Oh, mais monsieur Elbridge ne nous dit jamais où il va, gentleman. Si vous avez quelque chose à lui dire. Si que j'ai quelque chose à lui dire, et de très important, gronda le colonel chilien, alors ayez la bonté de l'écrire sur un papier, nous lui ferons parvenir. Volga venios, mais tu te moques de moi, gringo, grinça Bernudez en serrant les poings. Où est Elbridge? Mais je vous dis, j'en sais rien, monsieur Elbridge est en voyage. Et c'est votre carte, nous la lui. Ma carte, pas besoin. Je suis le colonel Bernudez y Campos, entends-tu, ladron? Et dis bien à ton patron que je saurai le retrouver, alors. Le Chilien n'en dit pas davantage. Jaune de rage et tremblant de fureur, il fendit la foule qui encombrait l'antichambre et disparut. William Elbridge, de son bureau où il se trouvait, avait tout entendu. Il sonna le garçon et celui-ci vit qu'il était très pâle, plus que pâle, livide. « Oh, je n'y suis jamais pour cette énergumène, ce colonel chilien qui vient de sortir, dit-il. C'est compris, n'est-ce pas ?»«
Oui, monsieur Elbridge. »«
Du reste, il ne va pas tarder à être arrêté. » Le garçon sourit d'un air fin. Il était habitué à ses recommandations. Le Wonderful Journal, en effet, attaquait tout le monde. Certains même, à San Francisco, l'accusaient de chantage. Et ce n'était pas la première fois que des individus plus ou moins lésés par Elbridge venaient les menacer jusque dans ses bureaux. Jusqu'ici pourtant, à part deux gifles et quelques coups de canne, le rédacteur en chef du Wonderful s'en était tiré indemne. Il acceptait avec philosophie ce qu'il appelait les inconvénients du métier. Le garçon, étant sorti de son bureau, il murmura « Mais comment se fait-il que l'on n'est pas encore arrêté ?» Pendant quelques instants, il parut en proie à une véritable inquiétude et resta immobile, assis devant sa table à écrire, à mâchonner distraitement le bout de son cigare éteint. Et tout à coup, il éclata d'un rire nerveux. « Mais suis-je naïf ?» Et l'immunité diplomatique, parbleu, c'est simple. Il est couvert par l'immunité diplomatique. On ne peut l'arrêter avant que son gouvernement ne l'autorise. Mais il doit être surveillé. Je suis bien tranquille. Elbridge, maintenant rassuré, se leva. Il s'approcha de sa fenêtre et, à travers les rideaux, constata que la rue était déserte. Tranquillement, il alla prendre son chapeau et son pardessus, et par un escalier de service, quitta le journal. C'était la nuit. Par des rues détournées, le rédacteur en chef du Wonderful Journal gagna le consulat d'Allemagne. Il resta jusqu'à 1 h du matin, et une auto qu'un domestique alla chercher le mena de là à l'imprimerie où se faisait clore le journal. Sa présence y était indispensable. Il y arriva sans avoir fait de mauvaises rencontres, c'est-à-dire celle du colonel Bernudez,
Et son premier soin, une fois dans la petite salle où il revoyait les épreuves, fut de défendre, sous aucun prétexte, qu'on laissât pénétrer quelqu'un, quel qu'il fût, jusqu'à lui. Cette précaution prise, il commença son travail de chaque nuit, consistant à examiner les épreuves au fur et à mesure de leur composition. Malgré ses soucis, la besogne professionnelle l'accapara bientôt tout entier. Il était ainsi penché sur ses papiers lorsque le metteur en page du journal entra. « Qu'est-ce que c'est ? » maugréa-t-il sans s'interrompre. Oh, « Monsieur Albridge, c'est un gentleman qui voudrait vous parler. Mais j'ai dit que je ne recevais personne. Je suis en voyage, c'est clair !» grommela le rédacteur en chef en se redressant. « C'est ce que j'ai répondu, monsieur Albridge. Alors le gentleman m'a remis cette carte pour vous. » Et il attend la réponse. Imbécile, puisque je suis en voyage, fit Elbridge en haussant les épaules, et en même temps, il prit la carte que lui tendait le metteur en page, lequel ajouta. J'ai bien répété que vous étiez en voyage, monsieur Elbridge, mais le gentleman m'a répondu. Donnez-lui toujours, j'attends. Je suis sûr que monsieur Elbridge me recevra. Le rédacteur en chef du Wonderful Journal était devenu verdâtre. Il ne répondit pas, occupé qu'il était à lire la carte mystérieuse. Enfin, d'un geste nerveux, il la froissa, la fourra dans sa poche avec l'enveloppe qu'il avait contenue, et relevant la tête, demanda « Où est-il cet homme ?»« À l'atelier des linotypes, monsieur. »« Bon, c'est bien, j'y vais. » La carte que venait de lire William Elbridge portait ces mots. John Peters, reporter. Prie Monsieur Elbridge de le recevoir. Il lui apporte des renseignements sensationnels sur l'affaire du club du feu d'enfer. Il connaît le vrai coupable, qui n'est pas Monsieur B.X.C. Il a voulu donner au Wonderful la primeur de ses articles. Certain que Monsieur Elbridge l'accueillera avec plaisir et en saisira toute l'importance. Les mots « il connaît le vrai coupable » et « en saisira toute l'importance » avaient été soulignés. Certes, le rédacteur en chef du Wonderful Journal devait saisir toute l'importance des révélations de John Peters, car derrière son metteur en page, il se précipita dans l'atelier des linotypes. Une activité intense y régnait. Les typographes, assis devant leurs machines, tapotaient leurs claviers parmi la buée chaude et l'odeur fade du plomb en fusion. Elbridge aperçut, appuyé à une linotype inoccupée, un individu enveloppé d'un ample Macfarlane à carreaux verdâtres. Une paire de lunettes à verre fumé dissimulait ses yeux. Une courte pipe, dont il tirait d'épaisses bouffées, surgissait d'entre les longs poils jaunes de sa moustache. Le rédacteur en chef du Wonderful Journal examina l'inconnu. Ce n'était pas Berlioz, aucun doute. Rassuré, il alla à lui. « Vous êtes Monsieur John Peters ?» en personne. « Vous avez des révélations à me faire sur le crime du club du cheveu d'enfer ?» Non, pas des révélations, des observations. Elbridge tressaillit. Oh, je ne comprends pas, dit-il en se dominant. Venez dans mon bureau, vous m'expliquerez cela. Comme vous voudrez, mais faites vite. J'ai des amis qui m'attendent et je ne voudrais pas les inquiéter. Je vous suis, gentleman. Elbridge tressaillit encore. Décidément, il était nerveux. D'un pas qu'il essaya de rendre calme, il se dirigea vers son bureau. John Peters l'y suivit. « Personne ne peut nous entendre ?» demanda ce dernier une fois la porte fermée et les deux hommes assis. « Non, parlez, monsieur. »« Je parle. Oh, ce que j'en dis, c'était pour vous. » John Peters, négligemment, sortit d'un revolver. L'assassin du comte Bétonnilly, c'est vous, dit-il avec tranquillité. Elbridge se dressa, blême, des éclairs lui sortant des yeux. « Le gentleman, dit-il menaçant, asseyez-vous, j'ai des preuves. » fit Peters en braquant son revolver sur le journaliste. « Mais ne craignez rien. Si j'avais voulu vous faire arrêter, vous le seriez déjà, Herr Willem Hellbrook. Pouviez-je, c'est votre vrai nom. Je dis donc que c'est vous qui avez assassiné cette canaille de Matoni. Mais c'est faux, glapit Elbridge, ou Hellbrook, hagard. Et c'est moi qui ai pris l'argent qui était dans les coffres, acheva paisiblement le mystérieux Peters. Mais enfin, qui êtes-vous? S'écria le journaliste, si hors de lui qu'il ne songeait plus à nier. Je suis pour vous John Peters et pour d'autres Jack Streatfield. Oh, je m'en doutais que c'était vous. Vous n'êtes pas bête, compliment, fit Streatfield. Maintenant, finissons-en. Je ne suis pas ici pour discuter avec vous, mais pour vous proposer un marché. Vous allez insérer dans votre journal un petit article de moi-même qui contient la solution du mystère du club du feu d'enfer. Jamais je... En ce cas, je porterai un autre journal. Ce sera autant de perdu pour le Wonderful. Comprenez-vous? J'ai les documents de Berloudez. Elle vous pâlit. Et je les reverrai demain au Foreign Department où il les a volés. Cela vous étonne, hein? Oh, c'est très simple. L'autre soir, j'ai rencontré un pauvre air où je ne sais même pas son nom et m'en soucie peu, qui, complètement décavé par ce Berloudez, allait se jeter dans le port. Je l'empêchais, résolu de voir opérer ce Berloudez. Il ne me fut pas difficile de voir que cet honorable Chilien jouait avec des cartes préparées d'avance, ce qu'on appelle des séquences. Il jouait à coup sûr. Très simple, vous dis-je. Je jouais contre lui et à un certain moment, tout en poussant vers lui une liasse de 100 000 $, je changeais les cartes posées devant lui par d'autres, semblables, que j'avais préparées d'avance. Alors ce qu'on appelle la chance tourna. Je rinçais mon colonel comme une cuvette. Il manque de sang-froid, cet homme. Et devinant ce qui n'était pas difficile, que je l'avais battu avec ses propres armes, il se précipita sur moi, ce dont je profitais pour lui enlever son portefeuille, après quoi je m'écriais et je m'éclipsais. Dans la même rue, j'examinais le contenu du dit portefeuille que j'avais enlevé par plaisanterie, pensant bien qu'il ne comptait plus un cent. C'était vrai. Ah, il ne comptait pas un cent. Mais il contenait divers papiers à l'entête de Foreign Department traitant de certaines affaires litigieuses entre l'Angleterre et l'Union. Mais comment le colonel Berloudès, qui était chilien, avait-il ces papiers en sa possession? C'est ce que je me demandais. Un bruit de pas a précipité, interrompit mes réflexions. Je me retournai et j'aperçus mon colonel qui accourait comme un furieux. Je lui montrai ce petit revolver que vous voyez, ce qui pourrait faire de le calmer instantanément. « Tu calmes, dis-je, pas de bêtises ou je vous tue comme un espion voleur que vous êtes. »« Je vous l'ai dit, Elbrook, que votre manque de sang-froid. » Et comprenant que je l'avais deviné, il m'implora, cet imbécile. Il m'offrit 100 000 $ pour que je lui restitue son portefeuille. Je le laissais bêler et l'emmenais chez moi. Et là, je lui déclarai que j'étais un agent secret du gouvernement, que l'enquête que je venais de faire m'avait appris la vérité, enfin, que le seul moyen qui lui restait de s'en tirer était de m'avouer tout et de me dire le nom de ses complices. Quel colonel! Quel idiot! Et il m'avoua aussitôt la vérité, entendez-vous? C'est-à-dire qu'ayant perdu énormément au club du feu d'enfer, il était tombé sous la dépendance du comte Batonilly. lequel l'avait obligé, pour se libérer, de profiter de sa situation de chef de la mission chilienne pour les affaires mexicaines, situation qui lui donnait ses entrées au Foreign Department pour voler des documents secrets pouvant intéresser l'Allemagne. C'était ces documents qu'il n'avait pas encore livrés à Baltoni que je lui avais enlevés. Mais ce n'est pas tout, et cela vous l'ignorez, vous, le consul de l'Allemagne et tous les membres du comité du Club du Feu d'Enfer. Berlounès s'était arrangé avec Baltoni, qui préparait pour lui certains jeux de cartes, ce qui avait pour résultat de faire infailliblement gagner mon Chilien, lequel partageait ses gains, des gains considérables, avec le digne comte. Oui, Berlounès, dans son désarroi, n'avoua même pas que Batoni, tant leur intimité était grande, avait fait fabriquer pour lui des doubles clés de la chambre forte du club et des coffres forts qui s'y trouvaient. De vrais frères, enfin! Naturellement, je me fis remettre ces bienheureuses clés et me fis révéler la combinaison permettant de s'en servir. Ensuite de quoi, je lui promis ma bienveillance et l'engageai à venir me voir la nuit suivante, et en attendant de rester au consulat chilien pour éviter des incidents désagréables, ajoutai-je. Et comme de juste, la nuit suivante, grâce aux clés, aux indications de Berlounès, je n'eus aucune peine à pénétrer dans la chambre forte du club. J'ouvris les coffres, raflai le numéraire qui s'y trouvait, 1 653 000 $, et réentrai tranquillement chez moi. Peu après, Berlounès m'y rejoignit. Il me raconta qu'il vous avait rencontré, que vous lui aviez réclamé les documents volés à Washington, et qu'il vous avait répondu que vous les aviez remis à Batoni. C'est bien cela, n'est-ce pas? Je continue. Je calmai mon Berlounès et le renvoyai au consulat, l'assurant que j'arrangerais tout. Et par les journaux du matin, j'appris l'assassinat mystérieux du comte Batoni. Je n'eus pas de peine à deviner que c'était vous. Vous avez réclamé les documents à Batoni pour les remettre au consul d'Allemagne. Il vous a répondu qu'il ne les avait pas. Vous avez voulu voir s'il n'était pas dans les coffres. Il vous a amené dans la chambre forte et vous, dont les coffres je venais justement de vider, vous vous êtes cru trahi et vous avez tué votre complice. Mais c'est faux! C'est lui qui m'a attaqué, interrompit Holbrook, perdant la tête. Oh, ça, je n'en sais rien, poursuivit le mystérieux Streatfield. En tout cas, vous avez bien eu tort de laisser l'empreinte de votre doigt sur un des coffres. Mais ce n'est pas mon affaire. Vous avez eu tort aussi de téléphoner à M. James Molles Scott, le chef de la sûreté, pour accuser ce piteux Berlounès, et surtout de faire allusion à lui dans votre canard. Enfin, je vous le répète, ça ne me regarde pas. Voici un petit papier. Il contient le récit que je viens d'avoir l'honneur de vous faire. Je vous prie, je vous requiers, comme on dit au palais de justice, de l'insérer. Sinon, je le porte à un autre journal. Et en n'ont pas changé une ligne, n'est-ce pas? Je n'aime pas qu'on me corrige. Herr Holbrook n'était plus qu'une loque humaine. Monsieur Streatfield, balbutia-t-il, bégaya-t-il, c'est pas sérieux. Vous ne voulez pas ma mort, c'est pas possible. Je vous ai rien fait, moi. Ce misérable Batoni m'a attaqué, je n'ai fait que me défendre, vous. Streatfield éclata de rire. Très drôle, dit-il en se dressant. Vous faites l'effet de vos compatriotes qui, dans les tranchées de France, lorsqu'ils sont pris, crient « camarade ». Vous insérerez mon article ou bien j'en enverrai le double à mon ami Molles Scott. Vous n'avez pas hésité à accuser cet imbécile de Berlounès, n'est-ce pas? Alors, de quoi vous plaignez-vous? Ce sera les révélations promises par votre article de ce soir. Je vous salue, Herr Holbrook. Et Streatfield, à reculons, où il se méfiait, sortit, laissant le boche effondré, et disparut. Cet affaissement, d'ailleurs, ne dura pas longtemps. Heilbouck, soudain, se redressa. Rageusement, il déchira le papier que Streffild lui avait laissé, en mâcha et en avala les morceaux. Il courut ensuite vers un casier placé derrière lui. Il prit un indicateur de la ligne de San Francisco à Vancouver, Canada, et le parcourut rapidement. « Oh, 1h30 !» murmura-t-il, après avoir consulté sa montre. « Il y a un train pour Vancouver à 2h40. J'ai le temps. Oh, demain matin, je serai loin, après tout. Je suis assez riche. » Calmé par la résolution qu'il venait de prendre, Heilbrugge gagna l'imprimerie, laissa ses ordres au metteur en page à qui il déclara qu'il se sentait souffrant. Ayant passé son manteau, sortit et se dirigea vers son domicile pour y prendre toutes les valeurs disponibles qu'il comptait emporter avec lui au Canada. Dans la rue, c'était la nuit noire, le silence. Heilbrugge marchait à pas rapides. Il était si préoccupé qu'il ne vit pas une ombre s'approcher de lui. Une détonation retentit. Le rédacteur en chef du Wonderful Journal, la cervelle trouée, tomba mort. « Ah, je savais bien que je retrouverais, canaille !» gronda la voix du meurtrier, le colonel Berloudez y Campos. Et il se pencha sur le cadavre pour s'assurer que son dénonciateur était bien mort. Satisfait, il haussa le revolver à sa tempe. Des policemen attirés par la détonation accouraient, pressa la détente et s'affaissa foudroyé. La police ne put que recueillir les deux cadavres. Et nul ne sait encore la vérité à San Francisco sur le mystère du club du feu d'enfer. Nul, excepté Streffild, lequel Streffild, on l'a deviné, n'était autre que John Strobbins. C'est de lui que je tiens l'histoire. José Moselli.